Prison and Riviera de Prairie Prison by calling 514-876-3748. We also have a number for non-collect calls. That number is 438-337-8423. Feel free to call that number and leave a message for us with news to share on the show or an audio message for your loved ones inside.
You know, it's the boy Dash all the way from Grenada and it's tuned into C-Cut 90.3 FM.
Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça.
Man, qu'est-ce qu'on mange?
Ni ça. Vous protège pas de ça.
De la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine.
Ou ça. Ou même de ça.
Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous.
Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
If you're young at heart, for it's hard you will find to be narrow of mind. If you're young at heart, you can go to extremes with impossible schemes. You can laugh till your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth when you're young at heart? For it's hard you will find to be narrow of mind when you're young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here's the best part, you'll have a head start if you are among the very young at heart.
You are among the very young at heart.
Good
Good evening. You're listening to Older Women Live on CKUT 90.3 FM. We come to you monthly every second Wednesday of the month. We are Older Women Live by, for, and about older women from a feminist and generally progressive perspective. I'm Laura Yaris. I'm one of your co-hosts today, and we have two other members of our collective, Rosemary Wally and Brisna Kaha-Rowe, with us today. We have Marlene Rateau here in spirit. Unfortunately, she had a very serious computer issue and was unable to actually participate in the program, although she was able to see and hear us. And we'd like to give her a shout out and thank her very much for all her support and helping to line up our special guests for today, and for her help with preparation of this program. Today we're going to be taking a detailed look at the terrible situation for people living in the private residence known as Mont Carmel. As some of you might have been following on regular news media, the building in which the Mont Carmel residence is located was sold a while back, and the new owner has decided to turn it into a regular profit-making apartment building, cutting off all services, increasing the rent, and serving eviction notices to the residents, and leaving them all in a terrible state and not knowing what they can do and just being extremely disrupted in their lives. So we're going to be interviewing two of the actual residents there, Suzanne Loisel and Constance Vaudrin. And we also have the honor of a special appearance by a spokesperson for the Quebec Solidaire Party, Manon Massé, who's the member of the National Assembly of Quebec for Sainte-Marie-Saint-Jacques. She's been extremely supportive to the residents of Mont Carmel, and I like to say she's a true woman of the people. So most of this interview took place in French, but I will be summarizing and translating periodically. So here's Rosemary Wally to throw out the first question.
Well, I think the first question is obviously what is happening at Mont Carmel, which is on the Maisonneuve Street. Tell us the history of the struggle. What is actually happening? How long have the people lived there? Who are the new landlords? And especially talk to us about the struggle.
Peut-être Suzanne ou Constance.
Ok, moi je peux. Constance, je peux commencer?
Bien sûr.
Alors écoutez, la situation rapidement à Mont Carmel et je compte bien sur Constance puis aussi Manon qui suit très bien d'autres. La résidence Mont Carmel, située au centre-ville, abrite 217 ou 219 logements. Je ne sais jamais, je me trompe toujours dans les chiffres. Pour faire une histoire courte, on a appris par une lettre à tous les résidents, le 10 ou le 11 janvier, que la propriété avait été vendue à un monsieur qui s'appelle, c'était une compagnie à numéro, à Mont-Carmel, etc. Mais sous ce numéro est un homme, un promoteur immobilier vorace. Il y a un certain nombre de propriétés à Montréal. Donc, il a mis la main sur cet immeuble dont la valeur municipale était de 16 millions et il l'a payé 40 millions. Alors déjà, peut-être qu'on peut se poser une question sur cette transaction. Donc, la propriété a été vendue. Nous avons été avertis donc autour du 10-11 janvier que le propriétaire, on nous saluait, etc., à travers la firme de gestion qui gère maintenant depuis la vente, que la résidence était vendue, mais qu'on aurait les mêmes services et que toute la vie continuerait comme avant. Et le 31 janvier, surprise, catastrophe nationale, avis d'éviction à toutes les portes pour les 16 étages. Alors, pouvez-vous imaginer dans une résidence où il y a 200 résidents, un peu plus, un peu moins, dont la moyenne d'âge, dont les deux tiers, en fait, ont plus de 75 ans. Bon, quel choc que ça a créé. Évidemment, c'est une résidence pour personnes autonomes, mais il y en a aussi qui étaient en perte d'autonomie. C'était un traumatisme important. Franchement, une détresse humaine devant l'inconnu, devant la perspective de déménager, Imaginez-vous des personnes qui ont 91 ans, 97 ans, il y en a même une qui a 98 ans, de s'imaginer faire des boîtes. Et pour aller où? Quand on sait qu'on est dans un contexte de crise du logement majeur et qu'en plus, on découvre le nombre de RPA qui diminue à vue d'œil. Rapidement, dès le lendemain, un comité s'est mis sur pied de personnes indignées par rapport à la situation. On a la chance d'être dans le comté de Manon Massé, de Québec solidaire, pour qui l'aspect logement est une dimension importante. Et dans les heures qui ont suivi, on a eu un contact avec Québec solidaire. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu un point de presse devant la résidence qui a absolument énervé la nouvelle firme de gestion, et ce qui a probablement amené l'expulsion de la directrice sur le tas le soir même. Et à partir de là, il y a eu toute une série d'actions, assemblées d'informations avec le soutien de Québec solidaire, et pas seulement le soutien technique, mais avec des personnes de l'équipe, la présence de Manon et des membres de l'équipe du comté, et avec aussi la présence de Sol Zanetti qui est venu à une autre rencontre deux jours plus tard pour une entrevue. Écoutez, il y a eu plein de solidarité, plein de gestes posés, des lettres ouvertes, des entrevues, assemblées d'informations. Et là, on s'est dit, on fait quoi? On conteste. On conteste l'avis d'éviction. Prochaine étape, tribunal administratif du logement, communément appelé le TAL. Et là, il y a eu une mobilisation extraordinaire et des gens du comité qui ont visité tous les résidents et résidentes pour dire, écoutez, on fait un processus collectif de défense de nos droits. Et l'alternative, c'est le tribunal dans un premier temps. Alors, c'est sûr que pour des gens, hein, l'aspect justice est traumatisant. 91 ans, là, se présenter devant un tribunal, c'est pas très sympathique, disons. Si on invitait les gens à aller au cinéma, ça serait peut-être autre chose, mais c'était pas ça. Alors là, les gens ont travaillé très fort, puis là, ça devrait être Constance qui dise ce bout-là. Hein, Constance, si tu peux peut-être dire tout le travail de mobilisation, d'écoute des gens pour embarquer ou respecter la décision des gens de ou rester sans embarquer ou de partir.
On s'est regroupé là, quelques personnes, puis on a décidé que deux personnes allaient faire le tour sur tout. Et donc, on est allé frapper aux portes des gens. Puis là, on a découvert hein, qui était derrière les portes. On en connaissait plusieurs, mais on ne connaissait pas tout le monde. Hein. Au moins de savoir dans quelle réalité ils vivaient, puis quels étaient leurs problèmes. Alors, en parlant avec ces gens-là, en leur expliquant ce qui se passait, et on a rencontré une détresse énorme. Moi, j'ai été frappée par ça, là. Vous n'avez pas idée. Et parce que moi-même, j'étais secouée par ça, hein. Mais quand j'ai vu la réalité des autres personnes, là, plus âgées que moi, puis en condition vraiment pas drôle sur le plan santé et sur le plan réalité, là, tu sais, financier aussi, hein. Alors là, ouf, c'était un coup. Alors, il s'agissait d'expliquer aux gens un peu la démarche qui se faisait et de voir qui était intéressé à entrer puis dans la démarche et leur donner le temps de réfléchir, mais aussi tu sais, de nous dire ce qu'ils voulaient faire. Alors là, ça a été là, de rencontrer, par exemple, une personne là, qui... c'est-à-dire, ça, c'était dans un temps ultérieur qu'on est repassé, parce qu'à chaque fois qu'on a un bulletin à remettre pour informer où on en est rendu dans nos démarches, je frappe à la porte et puis j'attends qu'on réponde. Et si la personne est là et répond, bien là, tu parles, hein, puis tu peux parler, puis tu écoutes, et puis pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, il y a des gens, là, moi, je vois une femme qui est dans sa chaise, elle ne bouge pas de sa chaise, elle est incapable, elle a 91 ans, et c'est son garçon qui vient de l'extérieur pour l'aider dans tout. Le CLSC vient une fois ou deux par semaine, je pense, mais elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas, elle est incapable de dire « je vais partir d'ici ». Tu sais, rendue à cet âge-là, je l'ai vue hier devant la résidence, son fils est venu l'emmener là, et puis elle était là pour nous jaser avec elle et tout ça, puis elle était contente de voir le soleil et tout, parce que son fils l'amène en bas. Et que, tu sais, elle a les, ici, elle y a une infirmière, elle a les soins, elle se sent bien ici. Elle ne veut pas partir. Et il y a cette dame-là, mais il y en a plusieurs autres dans ce cas-là. Alors, il s'agissait de recueillir là, les témoignages et d'expliquer un peu la démarche qu'on faisait. Et comme disait Suzanne, tu sais, c'est insécurisant aussi penser question justice, question tribunal et tout ça. Mais on leur a bien expliqué qu'il ne fallait pas s'inquiéter, parce qu'ils nous ont délégué, hein, d'une façon officielle. Ils ont signé qu'ils acceptaient que le comité les représente auprès des avocats. Alors, c'est ce qu'on a fait, on est rendu là. Hein. Alors, voilà un petit peu là, le contact que moi j'ai eu. Et encore, j'ai avec les gens, parce que tous les jours j'en attends, tous les jours je rencontre des gens à qui je n'avais pas parlé en profondeur avec eux. Là. Alors, ça, voilà, c'est assez. Assez fort. Suzanne, vous continuez?
Alors, résultat de cette démarche auprès des locataires, il y a 59 personnes qui ont accepté d'embarquer dans le processus d'opposition à la vie d'éviction. Et bon, là, il y a eu ramassage de papiers, de baux, etc. Je vous épargne, mais ça a été un travail de moines, comme on dit dans le jargon, parce que, tu sais, les gens, leurs papiers, où est mon bail, où est mon avis d'éviction, c'était vraiment une expédition. Mais finalement, bon, 59 personnes ont consenti à embarquer, dont une des premières, dans les 48 heures, est décédée. Le stress, l'inquiétude, on peut pas imaginer l'impact que ça peut avoir, je pense, sur ces gens-là. Bon, là, ça a pris, disons, en gros, 3 semaines, ce travail de préparation pour présenter les dossiers. Les dossiers ont été présentés par 2 avocats. Un groupe a été présenté par le Manuel Johnson et l'autre groupe par Julien Delangie. 2 excellents avocats proches, disponibles, compétents, grâce à Québec solidaire qui nous a... Je ne veux pas faire de la pub pour Québec solidaire, mais écoute, je suis obligée de dire les choses comme elles sont, non? Honnêtement, et ils ont été d'une disponibilité... Donc, les 59 dossiers ont été déposés. En fait, c'est 59 personnes, mais 57, comment dire, demandes, parce qu'il y a 2 appartements qui ont des couples. Alors, il faut compter les personnes, mais... Le dépôt de 57 oppositions, oui, à l'avis d'éviction. Mais il y a une autre 50aine de personnes, ou 60aine de personnes, comme on a évoqué, qui ne se sentent pas capables d'embarquer là-dedans, mais un bon nombre appuie la démarche qu'on fait et même nous aide économiquement à poursuivre la lutte. Parce que pour chaque locataire, présenter son dossier au tribunal, c'était 200 $. Alors, c'est pas tout le monde qui pouvait faire ça. Et il y a eu une belle solidarité entre les locataires. Des locataires qu'on connaît mieux que d'autres moins que d'autres. Alors là, il y a eu une mise en demeure au nouveau propriétaire de répondre à ce dépôt des demandes d'opposition au tribunal. Il y avait 10 jours. Et si, selon la réponse, etc., on irait à un palier supérieur. Et, bon, effectivement, les 10 jours ont passé, mais à peu près 15 jours après, on n'avait pas de réponse des avocats. On s'est dit, quand même, comment ça fait qu'ils ne nous informent plus, puis ils nous informaient? Qu'est-ce qu'a répondu l'avocat du propriétaire? Ben, pour apprendre que l'avocat n'avait pas bougé. L'avocat du propriétaire, il n'y avait eu aucune réponse. Donc, je me souviens plus des dates, fin mars, là, ça a été le dépôt, la préparation du recours judiciaire à la Cour supérieure, et c'est ce qui a été déposé mardi le 5, et là, ça y est, on est rendu à la Cour supérieure. Entre-temps, on vient de recevoir aujourd'hui notre convocation au tribunal administratif du logement. Et on doit se présenter à la mi-mai. Et ils ont été obligés, le tribunal, de louer
une salle d'hôtel, à l'hôtel universel, parce que notre groupe est trop gros pour se présenter au tribunal administratif. Mais c'est le bonheur, on va aller se promener à l'hôtel et on espère qu'ils vont nous servir un petit quelque chose. Mais tout ça pour vous dire que c'est quand même une démarche. Mais là, avec ce on nous dit peut-être qu'on n'aura pas besoin de se présenter parce que le recours à la Cour supérieure va tuiler la requête au tribunal administratif. Ça va avoir priorité. Et là, la différence, c'est qu'au tribunal administratif, ce sont des demandes individuelles. Chaque locataire fallait répondre à l'avis d'éviction. Tandis qu'à la Cour supérieure, c'est un recours collectif. C'est une locataire qui, au nom des autres, présente sa requête. Et c'est Nicole Jeté, qui est une résidente ici, qui n'est pas membre du comité pour des raisons de santé, mais qui a accepté d'être la requérante. Alors, vous avez accès à tous ces dossiers sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, le bureau du registraire de je ne sais pas qui. Alors, voilà, on est embarqué dans ça. Et là, depuis, on n'arrête pas de faire des entrevues pour dire qu'est-ce qui nous arrive. Et je finis avec deux choses. On a lancé sur le site de l'Assemblée nationale une pétition pour demander, en fait, un changement législatif qui... puis là, Manon pourra aussi en parler bien, plus davantage. Et en même temps, on a lancé depuis... c'est hier qu'on a fait ça, ou hier matin... une campagne de sociofinancement pour soutenir cette démarche, parce que quand même, ce sont les avocats sont très généreux, mais il y a quand même des frais importants. Mais comme on est dans le comité des gens qui étaient déjà dans des réseaux de solidarité avant d'arriver ici, ben on a contacté nos réseaux de solidarité. Il y a eu une première collecte de fonds qui a été extrêmement positive. Mais là, c'est une campagne de sociofinancement et l'objectif, c'est 50 000 $. Mais on approche. Grâce à la mobilisation, grâce à la solidarité, grâce à...
All right, let's take time to summarize this in English a little bit. So we were listening to Suzanne Loisel and Constance Vaudrin, two residents of the Mont Carmel Seniors Residence. So first of all, the residence itself has somewhere around 217 to 219 apartments. And so there's a little over 200 residents in these various apartments. And on January 10th, more or less, they learned that the building had been sold for the price of about $40 million. And the residents received notice that there would be no changes, everything would remain the same. But then around the end of January, everyone received eviction notices at their apartments. And that obviously caused a lot of disturbance and people got very upset. Most people are over 75 years old who live there. Some people are even into their 90s. And of course, they were all very shocked, and what are they going to do, and where are they going to go, and so on. How can they move? They don't feel physically capable of doing so. A committee was formed, and Quebec Solidaire Party was contacted. The MNA is Manon Massé, as I mentioned, for the riding in which this building is located, Sainte-Marie-Saint-Jacques. And there was a press conference. And, of course, the building owners were not very happy with the fact that this was being publicized. Then there were a whole series of actions that took place. First, there was an information meeting with the support of Quebec Solidaire, who provided some technical assistance. There was also the presence of Manon Massé and other people from the Quebec Solidaire team. There were open letters to various publications. And then it was decided to contest the eviction at the Tribunal de Logement, or the Housing Administrative Tribunal. So a committee was formed, and some committee members visited all the residents in every apartment, including, and some people from Quebec Solidaire went along and visited some of the tenants as well. They knocked on every door, and they got to know all the different residents. Of course, some of them already knew each other, but Suzanne and Constance were saying that they got to know a lot of the other residents. And of course, many of them were really shaken up by this and really in true distress because they didn't know what they were going to do. A lot of them were just totally helpless about this, and they'd been living in this building for years and they didn't know what they were going to do. The residents delegated committee members to represent them, and the lawyers that were provided with the assistance of Quebec Solidaire filed 59 petitions with the Housing Administrative Tribunal. 59 people, 59 tenants who had agreed to be part of the legal action. This was a lot of work. It took about 3 weeks. People had to get their documentation together and so on. And then the two lawyers submitted all of these petitions. And there were another 50 or 60 residents who didn't feel they could necessarily be part of the legal action, but they did help financially because for each petition that was filed, there was a fee of $200, and not all the residents could afford to pay that fee. So there was assistance there. The new owner was put on notice about these petitions, but of course, the owner did not respond. At the end of March, the matter was also submitted to the Quebec Superior Court. This was more of a collective action or a class action. The administrative tribunal is individual cases, and then the Superior Court was a class action type suit. So they've been doing lots of interviews with media. And there's also a petition that is on the Quebec National Assembly website that people can sign, and I'll explain how you get there afterwards. It would be really important for everybody in the community to sign in solidarity with this very important cause. There's also a GoFundMe campaign. They're aiming to raise $50,000. They did have a first campaign, and they were able to raise some money, as I mentioned before, to help people out. But there are a lot of costs involved, and it's important to be able to get more funding. So again, that's a GoFundMe campaign that's happening right now. So we're going to get back to the actual interview. This is Manon Massé talking a little bit about her part and the part of Quebec Solidaire, the role that they've been playing in this matter.
Constance et Suzanne ont tellement bien expliqué les choses. C'est-à-dire, moi, sincèrement, tout ce que j'ai fait, c'est ma job de député. C'est-à-dire d'apprendre qu'il y a 200 locataires qui se font aînés, et qui plus est aînés, qui se font expulser de façon, à mon sens, plus ou moins légale. Mais ça, on va laisser le tribunal faire son travail. Mais c'est surtout de façon morale, c'est totalement inacceptable. Alors donc, ce qu'on a fait à Québec solidaire, ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire d'aller sur le terrain. J'ai aussi fait le tour des appartements. J'ai pas eu la chance de rencontrer tout le monde, mais mon équipe a fait aussi le tour des appartements. Notre objectif lors de la première assemblée publique dont Suzanne vous a parlé, c'était de s'assurer qu'on aurait, un, des avocats sur place parce qu'il y avait des questions légales, deux, qu'il y avait des gens du comité logement, parce qu'on savait que les droits du logement de ces femmes-là et ces hommes-là étaient bafoués. Et trois, qui est en cas de besoin du soutien psychologique, parce qu'on savait que c'était exigeant. Et on avait organisé une assemblée publique dont une partie s'est déroulée dans une salle et l'autre partie s'est déroulée simultanément dans la salle du Mont-Carmel, puisqu'il y a des gens qui sont à mobilité réduite et qui ne pouvaient pas, en plein hiver, se déplacer pour venir dans un autre endroit. Alors bref, pour ça, je vous dis, on a juste fait notre job de député, comment moi je conçois c'est quoi la job d'une députée. Et de l'autre côté, ben, le député, c'est d'être sur le terrain pour essayer d'accompagner des situations comme celle-là, mais c'est aussi d'être au Parlement pour mettre au grand jour les incohérences, l'immoralité d'une loi. Combien de gens m'ont dit, ben Manon, ça se peut pas que ça arrive. Je dis, oui, c'est que les gens disent, mais quoi, c'est légal? Ben oui, c'est légal. C'est ça qui est le paradoxe de l'affaire. C'est légal, mais c'est complètement immoral. Et c'est pour ça que depuis le jour 2, en fait, mon équipe et moi, on travaille tant celle qui est au bureau de comté que celle qui est ici à l'Assemblée nationale, travaille pour faire en sorte de, un, changer cette loi-là. La loi, en fait, c'est quoi? Hein? C'est que les résidences pour personnes aînées, les résidences privées pour aînés, pardon, sont des résidences qui sont organisées dans lesquelles il faut que ces résidences-là aient une certification selon le degré de service qui est offert aux résidents et résidentes. Et par la suite, quand ils ont cette certification-là, ben, ils peuvent, sur un coup de scène, comme on l'a vu dans la situation qui nous préoccupe, qui nous occupe présentement, décider du jour au lendemain presque de changer de vocation. Et c'est ce que Zaraviev, l'espèce de requin rapace spéculateur qui a acheté le Mont-Carmel, qui est un bâtiment en bon état.
Okay, just a reminder, you're listening to CKUT 90.3. This is Older Women Live. My name is Laura Yaris. I'm one of your co-hosts today. And just to summarize a little bit what Manon Massé was saying, basically, after Suzanne Loisel thanked her, she was saying that she was just doing her job as an MNA, a member of the National Assembly, and Québec Solidaire, they're a party that they like to kind of get in the field and really see what's going on with the people. So some of the team visited apartments along with some of the residents' committee to talk to the tenants about the eviction. And they made sure that there were lawyers there and people from the housing committee. And they also provided some psychological support because, as I mentioned before, this was all a huge shock to many of the tenants, and they just really were floundering, didn't know what to do. Meetings were organized, and Manon Massé was saying that they not only were there on site, but also in the National Assembly itself to bring this whole issue to light. People didn't believe that it was legal for the owner to change the purpose of the building like that, but it is legal, and the civil code and other laws need to be amended in order to protect residents in private seniors' residences. Private seniors' residences, otherwise known as RPA, have to have certification and provide a certain level of services. But because it's legal, if the building gets sold or if the owners decide they want to change the purpose of the building, they can just do so from one day to the next. So this leaves the door open for any greedy speculator to come in and do that and destroy a whole community that's developed in the building or in the residence. It's what Manon Massé called, it's legal, but it's immoral. She also mentioned that half an hour before our Zoom session, which you're hearing most of now on this program, Manon Massé actually questioned Minister Marguerite Blais, who's the Minister for Seniors, and also Minister Laforêt, the Minister of Housing. She said that Marguerite Blais had more sympathy for the greedy landlords than for the residents, and basically that the ministers were hiding behind inhumane laws. And now here's Suzanne Loisel to bring up another very valid point.
Mais l'autre chose qu'on n'a pas pu dire, ou qu'on n'a pas eu encore la possibilité de dire, c'est comment cette manœuvre appauvrit les personnes âgées. Oui, au plan psychologique, oui, au plan de la sociabilité, oui, par rapport à l'implication dans un quartier que les gens aiment bien, etc., où les services sont à proximité. Mais cet avis d'éviction était assorti d'une hausse de 3 %. Mais cette hausse, c'est sur le montant qu'on paie actuellement. Et dans le montant qu'on paie, il y a un 300 $ qui est consacré aux services. Donc, l'augmentation de 3 % sur le montant du loyer qu'on paie actuellement et avec l'abolition de tous les services, plus la perte de crédit de maintien à domicile qui vient avec la certification. Donc, pour les personnes aînées ici, donc plusieurs n'ont que comme revenu la sécurité de la vieillesse, c'est comme ça. Ça me gêne tellement de dire que je reçois la sécurité de la vieillesse, mon Dieu. Mais voilà. Mais ça, c'est pour dire comment les gens, là, ils vont être fragilisés au plan économique de façon dramatique. Et c'est un appauvrissement qui touche de façon violente la situation économique des personnes âgées. Et ça, je pense que c'est pas l'unique aspect, mais c'est un effet, un dommage collatéral éminemment important. Et ça fait partie, en plus d'être évincé, en plus de perdre son milieu de vie, en plus de perdre ses réseaux, de perdre ses repères, c'est une perte économique importante.
Tu as raison de soulever, Suzanne. Et là-dessus, vous savez qu'annuellement, le tribunal administratif du logement émet un indice d'augmentation de loyer. Lorsqu'il y a changement de vocation, le propriétaire pourrait augmenter de 400 %. Il n'y a pas rien qui s'applique à ce moment-là. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait voir dans la loi fantôme de Mme Laforêt, si toutefois ça allait arriver.
Est-ce que c'est la loi fantôme de Mme Laforêt ou de Mme Blais ou les deux?
En fait, quand je questionne Mme Blais, elle me dit que c'est Mme Laforêt. Puis quand je questionne Mme Laforêt, elle me dit que c'est Mme Blais. Fait qu'on va dire des deux, tiens.
OK. Là, c'est parce qu'à un moment donné, on ne sait plus nos dossiers. Est-ce que ça relève du ministère des aînés ou bien ça relève du ministère de l'Habitation? Et les uns nous renvoient aux autres. Il y a eu des correspondances des membres du comité des résidents qui ont écrit et à une et à l'autre. T'écris à une, elle te renvoie à l'autre. L'autre te renvoie à l'autre. L'autre te renvoie à l'autre. Non, ça ne va pas, là. Je veux dire, qui est responsable? Qui répond de ce dossier?
C'est ça. Puis, c'est pas abordé. La question fondamentale n'est pas abordée là-dedans parce que quand elles nous répondent, elles disent « Ah, les CIUS vont s'occuper de vous, vont vous donner tous les services et tout ça. » Mais c'est pas ça la question fondamentale. La question fondamentale, c'est que c'est au niveau de l'Assemblée, c'est au niveau de la législation pour que toutes les autres RPA et les autres... Il y a même des blocs appartements aussi hein, qui vivent des choses semblables. Ouf, allez-vous-en, les amis, les humains, ça compte pas trop, c'est l'argent qui compte derrière ça. Alors, ça devient là, horrible. Donc, c'est une question de législation qui va changer le fonctionnement entier de tout ça et qui va permettre au RPA. C'est peut-être à long terme, mais il faut commencer quelque part. Hein, alors, et puis, Manon, elle est là, alors elle peut défendre la cause et c'est bien important.
Peut-être que je donnerais un exemple, parce que c'est des aspects du travail parlementaire qui est moins connu. Peut-être que c'est de ce projet de loi fantôme-là que tu parlais, Suzanne. Il y en a tellement dans le sac à dos de la CAQ des projets de loi fantômes que je ne sais pas lequel. Mais on a, ici à l'Assemblée nationale, étudié depuis 2 semaines un projet de loi sur la maltraitance des aînés. Et nous, à Québec solidaire, on a défendu beaucoup de choses, mais on a été têtus et on a voulu faire reconnaître que dans ce projet de loi-là, qui était là justement pour protéger les aînés, un projet de loi mené par la ministre Blais, responsable des aînés, c'était d'inclure, de reconnaître la maltraitance économique qui est faite par des propriétaires spéculateurs, rapaces, comme le cas qui nous occupe à Mont-Carmel. Et donc, mon collègue Sol Zanetti, responsable des aînés, a essayé autant comme autant d'inscrire des amendements dans le projet de loi qui viendraient soit interdire la conversion sauvage, soit faire en sorte que lorsque un propriétaire veut se défaire d'une résidence pour aînés, qu'on l'inscrive plus dans l'économie sociale, hein, comme coopérative ou comme OSBL d'habitation, ou en tout cas plus du côté de l'économie sociale que de l'économie rapace. Ça aussi, ça a été rejeté. D'obliger un plan de transition, pas juste les CIUS vont s'occuper de vous autres, mais d'obliger des plans de transition et de donner minimalement 1 an pour que, pas tu apprends la nouvelle qu'il faut que tu partes, puis tu as 1 an, c'est tu as fait adopter ton plan de transition et après ça, tu as 1 an pour le mettre en action comme propriétaire. Bon, bref, plein d'autres amendements, mais la ministre a systématiquement rejeté tous les amendements de mon collègue Zanetti. Fait que c'est pour ça que ce matin, j'étais tellement en colère et je lui ai dit ben, qu'elle était au service des multinationales et des grands propriétaires parce qu'elle avait une opportunité là. Elle connaît la situation à Mont-Carmel. Elle ne peut pas ne pas la connaître là. Hein? Ça fait un mois et demi qu'on est dans les médias, que nos aînés du Mont-Carmel s'expriment sur la place publique, que moi, je l'attaquais. En fait, de son point de vue, probablement, je l'écœure ici en chambre, mais elle a préféré répondre absente pour protéger nos aînés en résidence privée pour aînés. Alors donc, voilà, c'est une grande tristesse, mais vous savez quoi? Moi, pour moi, c'est une lutte. On le sait que c'est jamais les gens les plus vulnérables qui ont plus aisément font leur gain. Et moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour Constance, Suzanne, mais toute la gang, là. Marie-Paul, mon beau Normand, l'autre Suzanne, Nicole Jeté, bref, toutes ces femmes-là, ces aînés-là qui nous tracent la voie. Moi, je veux vous dire à quel point je suis reconnaissante, les femmes, de vous avoir au front encore aujourd'hui, parce que ça me rend plus forte. Et je vous en remercie beaucoup, mes sœurs.
Okay, to summarize what Suzanne Loisel and Manon Massé just said, Suzanne brought up a very valid point that this whole situation, it's not only damaging to residents in terms of their social network, in terms of their physical surroundings, but it also impoverishes people economically. There was a 3% increase. In other words, the residents had the option to stay without services, of course, and paying a 3% increase, including the $300 that they were paying to cover services which they no longer were going to receive. So the $300 was included in the 3%. In addition to which, they would all lose their tax credit for home care services since they were no longer going to be living officially in a private senior's residence. Suzanne also brought up the point that whenever they would address one ministry, there were two ministries involved, the Ministry for Seniors and the Ministry for Housing, and when they would address one, they would get sent to the other ministry, and when they addressed the other ministry, they would get sent back, so they were always being bounced, passing the buck back and forth between the two ministries. And that's just another diversionary tactic that they use. Manon Massé also pointed out that for the last couple of weeks in the National Assembly, the members had been studying a bill against elder abuse. And Quebec Solidaire tried to get some amendments put in to acknowledge the economic abuse of elders by greedy speculators and landlords. And they tried to have other amendments put in regarding changing the purpose of a building that had been a private senior's residence and how it should be done, if it should be done, and so on. All of these amendments were rejected by Minister Blais. So the struggle goes on, and Manon Massé was saying, we know it's a struggle, and they're in it for the long haul. And she was very grateful to everyone who was actively participating in the struggle against these evictions and rent increases and so on at Mont Carmel. And she was also very grateful to CKUT for allowing her to speak out around this issue and giving a voice to this struggle. And we'd like to thank her as well for all her efforts on behalf of the community and just wish everybody good luck with the struggle. Okay, we're going to take a musical break, and when we come back, I'm going to explain to you how you can get onto the National Assembly site in order to sign the petition, which will help support the residents at Mont Carmel. This is Buffy St. Marie with a strong song, quite appropriate. It's called Going Home.
Ah! far away, as people say. I got a home high in my heart. Heaven is right where I come from. I never throw it away. I know the place, and I'm going home.
Buffy St. Marie with Going Home. And once again, in case you've just joined us or have perhaps forgotten, let me remind you that you're listening to CKUT 90.3 FM. This is Older Women Live. My name is Laura Yaris. I'm your co-host. And with us we had Rosemary Wally, Brisna Kakha-Ro, and Marlene Rateau in spirit. We also would like to thank our very special guests, Suzanne Loisel and Constance Vaudrin, two residents of the Mont Carmel Residence for Seniors, and Manon Massé, member of the National Assembly for Sainte-Marie-Saint-Jacques. And if you would like to sign a petition in support, not just of the Mont Carmel Residence, but basically in support of private residences for seniors and the respect for their rights, respect for the rights of the tenants living in these residences. If you just Google National Assembly petitions and you click on that, you'll get a site that says signing e-petitions. You'll come to the National Assembly site, signing e-petitions, and you click there, and then you will see a search bar. And if you just enter into the search bar, RPA, which is basically the French acronym for private seniors residences, and you click on search, you will come to a short list of petitions that you can sign. You'll see the sponsoring member is Manon Massé, and the subject, it's written in French, it's Respect des droits des locataires des résidences privées pour aînés, which means respect for the rights of tenants of private seniors residences. So if you click on that, you'll be able to sign in support of the petition, which sets out demands for how these residences should be dealt with and how the civil code should be amended in order to protect people who are living in these private residences so that a situation like Mont Carmel would not occur again. Okay, we're going to take some time out now for a little spiritual moment. We've got three holidays coinciding this week and weekend, Of course, it is now the holy month of Ramadan for those who follow the Islamic faith. And on Friday at sundown, we have the Jewish holiday of Passover, which begins. It's also, and then we have Good Friday, the start of Easter weekend for those to whom that applies. So we're going to play some selections of music now as a way of just conveying some holiday greetings to everybody. Just take a little quiet moment. So the first selection I have for you is actually the Rabbana prayer, which is pronounced during the holy month of Ramadan. This is an interesting recording by a singer named Leila Terantchian, who was the first female singer ever to have released a recording of the Rabbana prayer. Ms. Terantchian's version of the Rabbana prayer is only available on the internet. Neither Iranian state radio and TV nor the Ministry of Culture and Islamic Guidance has approved the release of her recording of the song. The Islamic Republic bans female solo artists from performing or recording their songs. Many women singers have instead released their works on social media in recent years, so we were lucky to be able to find her. Leila Terantchian is a graduate of Tehran University School of Design and Architecture. She's released many classic songs, and she's also worked as a set and costume designer on a number of films. So the Rabbana prayer focuses the mind and spirit of the faithful on prayer and fasting during the holy month of Ramadan, comprises four Quranic verses. So let us just take a minute and a half and listen to Leila Terantchian with the Rabbana prayer.
Rabbana
was the traditional Rabbana prayer for Ramadan, sung by Leila Terantchian. Okay, now we're going to play a little something in honor of Passover. As many of you know, this is the festival that commemorates freedom, escape from slavery, and it's a holiday that translates really well into our modern times because there's always somewhere in the world, or most of the places in the world, where we all require liberation in one way or another, and it's more true than ever nowadays. So this song commemorates the passage in the Bible where the Israelites have succeeded in crossing the Red Sea safely, and Miriam the prophetess, who is the sister of Moses and Aaron, gathered the women together with timbrels, kind of like tambourines and little drums, and they danced down by the riverside to celebrate their freedom and sang a song of praise. So this is by Linda Hirschhorn and her group Vocalot, and the song is called Miriam's Slow Snake Dance Down by the Riverside.
And Miriam, the prophetess, took the timbrel in her hand and led the women down to the sea. And there they danced, and they sang Shir Ladonai, a song of thanks, for
Just about out of time for Older Women Live today, but before our final music selection, I would just like to once again thank everybody who was involved in the program today. I'd like to thank Brisna, Rosemary, and Marlene, my three sister collective members, who each in their own way helped line up the interviews, do some technical stuff, provide some useful input. So I'd like to thank my sister collective members first. I'd then like to thank our guests, Suzanne Loisel and Constance Vaudrin, two residents of the Mont Carmel residence, and member of the National Assembly for Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, for their participation in the show today in helping to explain everything to our listeners about Mont Carmel residence and the tenants there and why we need to support them. I hope that you'll all visit the National Assembly site and sign the petition if you haven't already done so. You're listening to CKUT 90.3 FM. This was Older Women Live for the month of April. We'll catch you again in a month's time in May. My name is Laura Yaros. I've been your co-host for this program. And we're going to go out now with a little something for Easter. I'd like to wish everybody who is observing any kind of holiday this weekend a very happy holiday, whatever it may be. Ramadan Mubarak, Happy Easter, Chag Pesach Sameach, or anything else, or just enjoy a beautiful, relaxing weekend off. And we're going to go out with a nice little contemplative piece of music by the Benedictine nuns. This is the Gloria section of the Easter Liturgy Mass. Be safe, everyone.
Thank you. Welcome back, ladies and gentlemen, friends and comrades. Welcome back to Amandla, your weekly news show on Africa with briefings and analysis. And we're here at CQUT every Wednesday night at 7. And don't forget to check our website, amandla.ca, for updates on what's going on and following up on some of the older programs. So tonight is a rather special night. Gwen, what have we got?
It is indeed. It's a wonderful night because we are celebrating an absolutely spectacular victory. And that is that a court in Burkina Faso has found Blaise Compaoré and others guilty in the assassination of Thomas Sankara. This is a campaign that's been going for over two decades. It was a fight against deep-seated impunity. And hey, it ended in victory, and I spent a wonderful evening last night interviewing Aziz Fall, who really was the person who